bienvenue dans le podcast Business Club, le podcast du business sportif. Marketing, opérations de com, entrepreneuriat, nous allons passer en revue toutes les opérations de nos invités dans cette industrie. Athlètes en activité, sportifs reconvertis, chefs d'entreprise et toute personnalité gravitant autour de l'univers du sport business.
Bonjour à tous, bienvenue dans le Business Club. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fedora Sens, performance manager et fondatrice de Football Performance. Bonjour Fedora.
Bonjour.
Ravie de t'accueillir.
Je suis ravie d'être là en tout cas.
Super. Alors d'abord, pour commencer, je vais te demander de te présenter s'il te plaît et un petit peu ton parcours.
Pas de souci. Écoutez, moi, c'est Fedora Sens. Je suis, comme tu l'as dit, performance manager. Donc, j'ai monté la société Football Performance il y a maintenant 3 ans. Je travaillais déjà un peu avec des sportifs auparavant. Et puis, il est venu l'idée de monter cette entreprise pour justement intervenir auprès des sportifs de haut niveau, mais aussi des jeunes du centre de formation éventuellement et les accompagner justement dans toute leur carrière entre guillemets et leur début de carrière par la même occasion pour l'hygiène de vie et la préparation mentale.
D'accord.
Voilà.
Et alors comment t'en es arrivé à ce parcours? Comment t'es rentré dans le monde du sport business, plus particulièrement du football?
Football, ouais. Alors parce que oui, à la base, c'est vrai que au départ, j'avais pensé vraiment football parce que au niveau de mes connaissances, ça commence toujours comme ça avec les connaissances, etc. J'avais une bonne base de connaissances avec le football. Maintenant, je travaille avec autres sportifs que le football. Comment j'en suis arrivée là? Tout simplement, j'ai mon papa.
Oui.
Qui est un ancien joueur professionnel,
un
ancien gardien de but, le football, je l'ai depuis que je suis née, tout simplement, je suis presque née dans un stade de football,
donc c'était logique quoi.
Je dirais pas que c'était logique en soi, mais je dirais plutôt que c'était naturel. Et puis surtout maintenant il est entraîneur des gardiens, donc avec l'équipe nationale d'Arabie Saoudite.
D'accord.
Donc on est toujours dans le foot quoi qu'il en soit, et ma vie a tourné autour du foot, donc mes années primaires, collège, lycée ont toujours été dans le milieu un peu du football. J'ai beaucoup déménagé, donc j'ai rencontré beaucoup de monde. Mon cercle d'amis, c'était forcément un peu dans le milieu du football. Que ça a été un petit peu comme ça. Au départ, je ne faisais pas du tout ce métier-là.
Mm-hmm.
Pas du tout.
Ah ouais.
J'étais dans une agence d'animation commerciale, donc je formais les animateurs.
Rien à voir.
Et puis, je me suis toujours intéressée à l'hygiène de vie, au bien-être, au mental, au business, à l'entrepreneuriat.
Ouais.
Et puis, de fil en aiguille, on en est venu à tout ça.
Et donc, tu es devenue performance manager.
Exactement.
Alors,
Qu'est-ce que c'est performance manager? Envie de dire, j'ai mis longtemps à trouver ce nom-là, parce que clairement, il existe, existe, performance manager, on peut le voir un peu partout.
Pas forcément dans ce milieu-là.
Exactement, parce que performance, on pense, préparation physique, on pense performance pure, mais on pense pas à tout ce qu'il y a derrière, au travail invisible.
Ouais.
Et du coup, c'est vrai que ce poste-là... Non pas que je l'ai inventé, je dirais pas ça, mais façonné exactement à mon image, à ma société. Et je pouvais pas dire que j'étais coach nutritionniste, parce que j'ai les diplômes, mais mon travail c'est pas que d'être nutritionniste. Mon travail c'est d'accompagner le joueur dans son travail invisible, et le travail invisible, ce n'est pas que la nutrition, c'est tout ce qui va derrière. C'est l'hygiène de vie avec l'hydratation, le sommeil et la préparation mentale, parce que je suis diplômée aussi en préparation mentale. Et c'est tout le... Voilà, Il y a la préparation physique, il y a l'entraînement au club, les matchs, etc. Et puis, il y a tout ce qu'il y a à la maison.
Et donc, toi, tu t'occupes
de cette partie-là.
Dans l'ombre.
Dans l'ombre. D'accord. C'est l'ombre. Donc, c'est après les matchs, savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, faire des bilans, travailler sur la discipline aussi. Parce qu'on peut avoir une discipline en club, on peut avoir une discipline au sein de l'équipe, etc. Mais à la maison, tout est différent. Même chez les jeunes. Quand on sort du centre de formation, c'est pas la même chose. On va vivre dans un appartement, tout seul, on
surtout
a plus...
chez les jeunes, j'ai envie de
chez les jeunes, parce qu'à 18 ans, c'est fini, le centre de formation. Ouais. Donc, on prend son indépendance. Si on va retourner pas chez papa-maman, ce qui est souvent le cas à 98,9%,
Il faut trouver un cadre.
Il faut se faire à manger, il faut... Quoique des fois, dans certains centres de formation, on peut continuer à aller manger, voilà. Mais... il y a une routine à mettre en place. Et malheureusement, ils se sont améliorés, les centres de formation, mais malheureusement, c'est des choses qu'on n'apprend pas encore aux jeunes. Et chez les plus vieux, je dirais, qui sont professionnels, c'est des bases qu'ils n'ont pas forcément eues et qui se sont installées. Il y a des mauvaises habitudes ou qu'ils ne connaissent pas, tout simplement. Du coup, ils ne les ont pas. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment, de nos jours, en tout cas, le football... est de plus en plus difficile, physiquement.
Ouais.
On les voit, Coupe du Monde, on enchaîne les matchs, les entraînements, il y a très peu de repos, on voit les blessures de nos jours. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une blessure? Est-ce que c'est le surentraînement? Mais est-ce qu'on adapte tout ce qu'il y a derrière à ce surentraînement, justement? Donc voilà, c'est tout, c'est mon rôle aujourd'hui. C'est ça, pour moi, chez Football Performance, d'être performance manager.
D'accord.
Voilà.
Et en fait, tu as créé... Et je voulais savoir aussi par rapport à Performance Manager, est-ce que c'est un métier qui est répandu? Est-ce que tu as été amenée à en rencontrer d'autres?
Non, pas à ma connaissance. Je ne les ai pas rencontrés physiquement ni... Par contre, j'ai rencontré des diététiciens, nutritionnistes, individuellement, des préparateurs. La préparation mentale, j'en ai rencontré. Mais c'est vraiment chacun son job. Mais quand on peut faire... plusieurs choses à la fois en ayant les compétences et souvent, que ce soit un jeune, si les parents, bien sûr, nous confient leur enfant, ou un professionnel, il a envie de pas parler à 10-15 personnes, ils ont déjà autre chose à faire. Et il faut savoir que ce soit en nutrition, que ce soit en préparation mentale, que ce soit en discipline, etc., on rentre dans la vie privée. On va connaître les femmes, pour ceux qui ont des femmes.
Ouais.
On va, parce que moi, personnellement, j'attache beaucoup d'importance à rentrer en contact avec les femmes de joueurs quand ils sont en couple ou mariés. Et ça, c'est très important parce que souvent, quand ils vivent avec leur femme, c'est elles qui font à manger.
Elle
a un rôle très important. Aujourd'hui, on néglige beaucoup ce côté-là, mais elles ont un rôle, je dirais, premium,
fondamental,
parce que c'est elles qui vont gérer tout le quotidien. Et moi, personnellement, je l'ai vécu, mais en tant que fille, parce que j'ai vu ma maman, voilà, et que j'ai mes amis aujourd'hui. J'ai des amis qui sont femmes de joueurs en Ligue 1, en Angleterre, donc un qui joue avec l'équipe nationale du Maroc. Enfin voilà, c'est des petits exemples, mais elles sont primordiales.
D'accord.
Et c'est important que... voilà, quand elles font à manger.
Dans le
exactement. C'est hyper important qu'elles se sentent incluses. Et c'est très, très important.
Donc là, je vais te poser une question que tu as déjà un peu donné la réponse tout à l'heure. Comment tu t'es fait un réseau au départ quand tu as commencé dans ce nouveau métier un petit peu?
Ouais.
Et en fait, tu avais déjà construit un petit peu ton
c'est
réseau.
C'est ça.
Des petites, en fait.
En fait, vraiment, mon réseau a commencé quand j'étais au lycée. Au Havre. Donc, mon papa était à cette époque-là entraîneur des gardiens et préparateur physique au HAC. Donc, ils étaient à l'époque avec Jean-François Domergue en Ligue 1. À cette époque-là, c'était toute la période de Florence Inamapongol, Anthony Le Talec. Voilà, c'était toute cette période-là. Et j'étais la génération, on était tous dans un lycée, parce que moi, je faisais du handball avec le HAC, justement, à cette époque-là. Et on était tous dans un lycée, le lycée Jeanne d'Arc, d'ailleurs, qui s'appelle, je le nomme, où nous, on était tous, donc il y avait les basketteurs, les footballeurs, les handballeurs, etc. On était un peu tous dans ce lycée-là. Et forcément, on avait ce réseau-là. Donc, j'étais connue comme la fille de... Voilà, d'accord. En gros, c'était ça. Et forcément, on crée des... Voilà, on a des liens qui se créent, surtout dans le sport. Forcément, bah ouais. Voilà, on sort, on va à l'entraînement, le week-end on a un match, enfin voilà.
Ouais, c'est
donc,
une niche, quoi.
C'est voilà, c'est voilà, et puis, exactement. Et les relations se sont créées comme ça. Donc j'ai gardé des contacts, puis après on part et on garde contact. Et c'est vrai que les réseaux, au fur et à mesure, ils jouent beaucoup au final.
Totalement.
Et puis moi, c'est vrai que j'ai vécu dans pas mal de villes, donc voilà, le réseau, hein, c'est simple. Hein, alors, oui, les réseaux sociaux, c'est très intéressant, c'est bien en termes d'image. Mais quand on parle de moi, on va parler de moi dans les vestiaires. D'accord. On va pas parler de moi, ah oui, je t'ai vu sur les réseaux ou autre. Mais le vraiment...
C'est le bouche à oreille, quoi.
C'est le bouche à oreille.
Okay.
Et ça, c'est comme dans tout métier, j'ai envie de dire.
Ouais, ouais, ouais.
Comme dans tout métier.
D'accord, ok. Donc tu as créé ton réseau. Et en fait, comment ça se passe? C'est que... c'est eux qui te démarchent ou c'est toi qui dois aller toquer aux portes? Comment ça se
passe? Ça dépend. C'est comme dans tout, pareil, hein, comme dans tout métier. On va avoir, je vais avoir, par exemple, un joueur dont, avec qui je me suis... Mon premier joueur, c'était... Premier, où c'était vraiment le démarrage où je m'occupais que de la nutrition parce que j'avais que ce... J'avais même pas encore créé ma société. Mais où vraiment, je crée mon indépendance, en fait. C'était Rifi Mandanda,
d'accord,
qui était très jeune à l'époque et qui était donc le frère de Steve, qui m'a dit « Bon, là, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me remettes un petit peu sur les rails. » Et ça a commencé comme ça.
D'accord.
Et après, bon, voilà, j'ai un ami de très longue date, qui est Jérôme Roussillon.
Mm-hmm.
Je peux les citer, hein, parce que, voilà, ils sont présents, ils le savent, voilà. Et depuis, voilà, on se connaît depuis 13 ans maintenant. Donc, ça fait très
amis, quoi.
Voilà, très longtemps. Et qui a voulu me faire confiance, qui m'a pas lâché, qui après a parlé de moi aussi. Et c'est comme ça que ça se passe. Après, voilà, des joueurs avec qui t'as perdu du poids, comment tu vois, je te sens plus performant, c'est bien, qu'est-ce que t'as fait? Et toutes ces petites choses se sont mises en place. Et puis après, on se fait un nom, un petit. Et puis, voilà, le fait d'avoir aussi. Parce que c'est difficile pour une femme dans le milieu de football, ouais.
Absolument,
mais c'est une femme.
Je me demandais ça aussi.
Exactement. Et
justement pour un peu avoir une crédibilité en tant que femme face à des joueurs masculins, comment t'as fait?
J'ai été naturelle.
Est-ce qu'il y avait des réticences au départ? Est-ce que t'as senti des blocages avec certains?
Des blocages peut-être, mais c'est peut-être parce que je suis une femme, voilà. Mais je dirais plus que c'est le fait qu'on parle qu'un joueur parle de moi à un autre, il y a la confiance.
Suffit à ta crédibilité. Voilà.
Voilà. Donc du coup, une fois que ton travail est bien fait, que le joueur parle du bien de toi,
voilà.
Son ami forcément va se dire ok, je te fais confiance, je vais tester.
Voilà. Okay.
Voilà, je vais voir ce que ça donne pour moi.
En fait.
Ça se fait naturellement au final.
Un joueur à la fois.
Voilà, c'est ça, ça se fait naturellement. Et après, chacun a ses objectifs, chacun a des besoins. Des fois, il y en a qui sont prêts, il y en a qui ne sont pas prêts. Après, voilà, la femme, il y en a qui préfèrent travailler avec des femmes et il y en a qui ne préfèrent pas. D'une, parce que.
T'as eu des refus déjà?
Ouais.
Ah ouais?
Alors, des refus, mais pas, je dirais. J'irai pas sexiste ou mauvais, c'est plus des refus. Non, mais je pourrais pas travailler avec toi, t'es une femme, c'est trop compliqué,
ouais,
pour moi.
Ouais,
mais
ouais.
C'était gentil et c'était pas, voilà.
C'était pas agressif. C'est juste un blocage un peu...
C'est voilà, de se dire, bon, je peux pas être trop sérieux, enfin voilà, c'était plus dans ce sens-là, mais c'était pas... Mais ça restait toujours très courtois et toujours très... Mais j'en ai eu quoi, deux?
Non, mais ça va.
Ou alors, on ne fait pas appel à moi, on va aller plutôt chercher un homme.
Ouais.
Mais en termes de refus, on me l'a dit deux fois, mais c'était pas... Voilà. Mais sinon, en soi, voilà.
Alors, on va parler un peu de ton entreprise.
Oui.
Quand est-ce qu'elle est née et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lancer dans l'entrepreneuriat?
Alors, moi, je suis partie de la société dont je travaillais parce que j'avais déjà commencé un petit peu parce que je m'étais formée dans les compléments alimentaires de base. J'avais fait
un peu dans la nutrition.
Hygiène de vie, hygiène nutrition. De vie, voilà, j'ai eu j'ai eu mon diplôme en nutrition. Je me suis formée sur les compléments alimentaires. Ouais. C'est vrai que c'est la première chose que je faisais au démarrage, mais je me rendais compte au fur et à mesure. Donc j'aidais des personnes tout à fait lambda, non sportifs, sportifs, pas toute personne. Maman, pas maman, homme, femme, pas de souci. Et puis, je me suis rendu compte que c'est vrai que mon cercle autour de moi, c'était beaucoup de sportifs. Forcément, des handballeuses, des handballeurs, des footballeurs, plus de footballeurs d'ailleurs. Et puis, ma passion restait envers le football, forcément. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas. En fait, il y a des besoins réels, que ce soit chez les jeunes, chez les plus vieux. Les semi-pros, les professionnels, notamment chez les semi-pros parce qu'on n'en parle pas, mais ils ont des besoins importants et ils s'entraînent et jouent des matchs comme des professionnels. Et leur rêve, c'est d'aller beaucoup plus haut. Mmh. Et malheureusement, ils n'ont pas
les moyens,
n'ont pas les moyens de fournir ces choses-là. Et même eux, personnellement, ils n'ont pas les mêmes salaires qu'un joueur de Ligue 1, de Ligue 2, voire même...
Et même le temps, enfin, je dirais, ils sont pas... Peut-être que le temps consacré aussi au football est moindre.
Ça dépend. En fait, ça dépend parce qu'on a des semi-pros ou la Nationale 2, par exemple.
Avec le club avec lequel tu joues
J'ai travaillé avec un club de Nationale 2, oui, effectivement, qui est Louan Cuiseau. C'est un joueur que je connaissais très bien, avec qui j'ai travaillé pendant 2 ans, qui m'a dit Fédo, on veut la monter cette année, je pense que ça ferait du bien à l'équipe, on est bien en ce moment, et voilà. Et donc l'équipe était prête à investir dans justement cet accompagnement en plus pour les joueurs. Mais voilà, effectivement, tout le monde n'a pas les moyens de le faire, et même individuellement, il y en a qui connaissent pas. Ils pensent que c'est des montagnes
à gravir,
alors que bon, voilà. Et puis, c'est vrai que c'est tout. Voilà, il y a des besoins. Il y avait des besoins. Je suis allée chercher les besoins.
Voilà.
Et au fur et à mesure du temps, j'ai adapté ma formule, j'ai adapté mon travail, j'ai adapté mes programmes, j'ai adapté. Je me suis dit. Et au fur et à mesure, je me disais, mais au bout d'un an, 9 mois. C'est bon, je lance.
D'accord.
Et tout seul, c'est sorti, football performance. Pourquoi ? Parce que football, forcément, et puis performance parce que...
C'est ce que tu essaies d'optimiser.
C'est les résultats, ouais, la performance. Voilà. Au final, qu'est-ce que veut un joueur ? C'est la performance. Et qu'est-ce que c'est la performance ? Parce qu'il y a un gros débat aussi là-dessus. Aujourd'hui, c'est ce que j'essaye d'amener chez le joueur. Et puis, voilà comment c'est parti.
Et donc, tu as créé une méthode
sur
4 piliers.
4 piliers, exactement.
Est-ce que tu peux les développer ?
Exactement. On a 4 piliers qui sont importants, parce que comme je l'ai dit, au fur et à mesure du temps, on adapte les programmes, on adapte quand on parle avec les joueurs après les matchs, et on se rend compte qu'on rentre beaucoup aussi dans la préparation mentale. Donc, j'ai décidé de me former. De plus, donc j'ai rajouté ce pilier-là. Donc, au départ, il n'y en avait que 3, maintenant il y en a 4. Et donc, le premier pilier, on va partir vraiment sur la nutrition pure, où là, on va adapter les programmes aux joueurs, que ce soit des jeunes, que ce soit des professionnels, des semi-pros, en fonction de leur charge d'entraînement. C'est-à-dire que je ne vais pas balancer un programme pareil.
C'est personnalisé, en fait.
C'est personnalisé. C'est-à-dire que je ne vais pas balancer un programme à un joueur qui est gardien de but, qui doit perdre 10 kilos. C'est un exemple. Et un attaquant qui fait 1m90 et qui a besoin de prendre en masse musculaire parce que, voilà, c'est très, très personnalisé. Et du coup, la nutrition va vraiment être adaptée aux charges d'entraînement. En Angleterre, on ne va pas s'entraîner comme en France.
Alors voilà, quelles sont les différences que tu as notées sur l'accompagnement du joueur entre tes expériences à l'étranger et...
Déjà, le premier point, c'est l'objectif du joueur. Lui a des envies, mais au final, il faut regarder ses besoins réels. Ouais. Parce qu'il se dit, moi, j'ai besoin de perdre ça, j'ai besoin de ça. Ok, on écoute. Mais au final, quand tu l'entends parler... que tu fais le point avec lui, que tu fais son éval, tu te dis mais non, t'es loin de là. Qu'est-ce qu'ils te disent les entraîneurs? Qu'est-ce qu'il te dit le préparateur physique? Qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'est-ce qui se passe à l'entraînement? C'est quoi quand tu le matin tu te notes quand t'arrives à l'entraînement tu notes, tu leur dis t'es fatigué le matin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es fatigué? Pourquoi t'as souvent des déchirures au niveau de la cuisse? Pourquoi t'as des crampes? Pourquoi toutes ces choses là? Lui
là
se
que
dit
toi t'interviens.
Et c'est là que en l'écoutant je lui dis attention, t'as tes envies et t'as tes besoins, c'est différent. C'est vraiment différent.
Donc t'es là pour recadrer un peu.
Mais parce qu'ils connaissent pas, et c'est tout à fait normal aujourd'hui. Voilà, des fois, bah, j'ai des directeurs sportifs qui m'appellent, qui me disent voilà, j'ai un joueur, j'ai besoin qu'il perde du poids. Ok, mais combien? Pourquoi? Et au final, on est un peu loin de la réalité parce que le directeur sportif vous dit il a besoin de perdre, il a besoin de perdre. Mais au final, quand tu écoutes le joueur. C'est différent. Donc, on va emmener ce résultat, parce que c'est pour ça qu'on me contacte et qu'on veut des résultats. Ouais, parce que le résultat, eux, c'est ce qu'ils veulent, c'est moins 4 sur la balance,
voilà.
Ou moins 3% de masse grasse sur la balance. Mais au final, comme je l'explique, c'est pas...
juste ça.
C'est pas juste ça. Il y a tout derrière. Parce qu'on peut faire tous les programmes du monde, si derrière, il ne boit pas bien, il ne perdra pas. Et s'il mange très sainement et qu'il mange très peu alors qu'il a 2 entraînements dans la journée et que à la fin, bah, il va se faire mal, il va se blesser. Donc, il faut faire très attention à tout ça. Et donc, il y a cette grosse partie-là qui est très, très personnalisée au niveau de la nutrition.
Ok.
Voilà.
Deuxième pilier,
ça va être l'hygiène de vie en général. Donc, ça va être l'hydratation, le sommeil, la récupération, toutes ces petites choses, notamment à la maison. C'est-à-dire que, alors, à l'entraînement au club, il n'y a pas de souci sur les pros Ligue 1, Ligue 2, à l'étranger quand ça va du plus haut niveau, certaines nationales notamment, mais dans d'autres clubs, on n'a pas tout ça, même en centre de formation. J'ai des jeunes en centre de formation. Donc, c'est des petits tips que je l'apprends, des petits conseils que je leur donne en fonction de leur état du moment, parce que nous, on fait des points vraiment toutes les semaines. C'est-à-dire que je suis dispo régulièrement. On fait des points toutes les semaines. On se dit, bah voilà, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. On se note, etc. Et là, ça va nous permettre de se dire, OK, il manque de l'hydratation. Il manque les conseils sur la récupération. Est-ce que tu as fait des soins chez le kiné? Est-ce que ça serait bien que tu fasses des étirements le soir? Chose que tu ne fais pas. Des choses qui ne sont pas...
Ça fait partie de la récupération.
Bien sûr. Okay. Prévention, récupération.
Ouais,
c'est-à-dire que après l'entraînement, après, c'est toute une historique, les étirements, je suis pas préparateur physique, mais on sait que c'est très important quand même de pouvoir s'étirer le soir avant d'aller dormir, et d'une, pas que pour forcément en prévention, d'une, tout simplement, déjà pour le retour au calme le soir avant de dormir. Toute personne devrait faire des étirements, même pas sportifs au final. C'est des petites habitudes que des fois certaines personnes ne le font pas, mais peut-être que ça peut leur apporter ce petit truc qui manque. Éviter justement les petites blessures, se sentir moins courbaturé à certains moments. Parce qu'un sportif, ça reste aussi courbaturé. C'est pas parce que tu fais du sport tous les jours
que ton corps,
ne souffre pas. Et chacun est différent. Chacun a une morphologie différente, chacun a un métabolisme différent.
Une capacité de récupération différente.
Tout le monde est différent. Il y en a qui récupèrent, mais super. Mais attention, qu'est-ce qui va se passer peut-être dans 2-3 ans? Prévention.
Et comment ça se passe quand c'est à l'échelle d'une équipe que tu dois faire ça?
Alors, on fonctionne un peu de la même manière, parce qu'on reste sur des conseils. On reste sur des conseils. Avec les équipes, on intervient en groupe.
Ouais.
Notamment sur la préparation mentale, parce qu'on fait beaucoup de cohésion de groupe, on fait beaucoup d'échanges.
Pour ce qui est suivi, tu ne peux pas le faire en individuel.
Alors, il y a ceux qui veulent et ceux qui ne veulent pas. C'est-à-dire que j'estime aujourd'hui, on ne doit pas obliger une personne à le faire. Il faut qu'elle soit partante, sinon elle ne le fera pas, elle le fera mal. Donc c'est complètement une perte de temps, il va se sentir freiné, et au contraire, ça va faire tout le sens inverse.
Ouais.
Donc... y a ceux qui veulent et ceux qui veulent pas. Il y a ceux qui en ont vraiment besoin, qui ne s'en rendent pas compte, Donc on essaye différemment. Mais à l'échelle d'une équipe, ça va être des interventions en groupe, prioritairement, parce qu'on va donner des conseils. Et puis après, en fonction du besoin, ça sera individuel. Moi, je sais que j'intervenais individuellement avec tous au moins une fois tous les deux mois, histoire de savoir comment ça va. Même si, après, j'arrive à les connaître, j'arrive à savoir, qui est et quels sont les besoins. Il y en a qui vont prendre plus de temps, d'autres moins. Il y en a qui ont déjà l'habitude, qui font leur routine propre. Je leur donne des petits conseils, mais ça ira pas plus loin.
D'accord.
Voilà.
Ok. Et comment tu as réussi à faire connaître ton entreprise ? Est-ce que tu passes par quel moyen de marketing, entre guillemets ?
Je dirais que je suis passée par tout type.
Ouais.
C'est-à-dire que quand on se construit, on essaye différentes choses.
Ouais.
Mais le premier moyen de se faire connaître, c'est dans les vestiaires.
Ouais.
Et le deuxième moyen, je dirais les réseaux sociaux. Parce que forcément, les réseaux sociaux...
Indispensable aujourd'hui.
Bah ouais, c'est-à-dire que maintenant tous les clubs ont des réseaux sociaux, tous les clubs, voilà, que ce soit les réseaux sociaux lifestyle ou les réseaux sociaux un peu plus professionnels, je dirais aujourd'hui, c'est tout le monde est dessus. Donc, je voudrais, va voir l'Insta de telle personne, regarde ce qu'elle fait et reviens vers moi. C'est une facilité pour la personne d'éviter de parler.
Totalement.
Voilà.
Tu présentes ta société.
Voilà. Après, je dirais que le meilleur des moyens de communication de marketing, c'est le bouche-oreille. C'est les vestiaires.
C'est ton travail qui parle, quoi.
C'est le travail qui parle. Parce que je peux être la meilleure sur les réseaux sociaux. Et si derrière le travail, j'ai rien, ça me rapporte rien. Clairement. Et c'est pas ça qui va me rapporter des clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis pas une influenceuse.
Ouais.
J'ai pas des millions d'abonnés, j'ai pas des milliers d'abonnés qui va me pouvoir me mettre en avant et me dire ah bah voilà, c'est pas le but en fait, c'est pas mon job. Moi, mon job, c'est d'apporter une performance aux joueurs et de les aider dans leurs rêves en fait et leur bien-être, c'est tout.
Et super. Et est-ce que donc tu travailles avec tout type, des joueurs de tout niveau ?
Oui.
Donc des, comme tu disais, formations.
Exactement.
Et puis professionnels.
Oui.
Est-ce que tu... Parce que l'enjeu n'est pas le même en termes de pour chaque joueur, en termes de pression, en termes financiers, en termes de résultats. L'enjeu n'est pas le même. Est-ce que tu t'adaptes à ça ?
Bien sûr. Aujourd'hui, c'est-à-dire que avec
est-ce que tu sens une pression supplémentaire, enfin par rapport aux joueurs ou au club qui te demande une pression supplémentaire quand le résultat...
Alors moi, j'ai pas de pression.
Non, toi, t'as pas de pression.
Non, parce que je sais ce que je fais.
Okay.
C'est-à-dire que à partir du moment où tu sais ce que tu fais, que tu connais tes erreurs, tu connais tes limites et que tu sais qu'à un moment donné, bah, tu peux plus le faire ou tu peux le faire, tu connais. Enfin, moi, personnellement, dans mon travail, je me connais. La pression, c'est eux qui l'ont. Ou le club, ou le joueur. Après, il y a des différences. C'est-à-dire qu'effectivement, un joueur de Ligue 1, un joueur d'une équipe nationale, surtout en ce moment, hein, on peut le dire, aujourd'hui, ce n'est pas la même pression qu'un joueur qui joue en National 2, d'accord ? Ou un jeune en centre de formation. Un jeune de centre de formation ne va pas réagir de la même manière.
Ouais.
Qu'un joueur professionnel.
Il n'a pas la même expérience.
Il n'a pas la même expérience, il va se mettre la pression sur certaines choses, mais il ne se la mettra pas sur l'hygiène de vie, il va faire attention, où c'est très rare. J'en ai eu quelques-uns où c'était vraiment du trop, mais il connaissait très bien son corps.
Ouais.
Après, un joueur professionnel, lui... il doit rendre des comptes, c'est-à-dire qu'il doit se battre pour sa place. C'est-à-dire qu'il y a tellement de concurrence, même chez les jeunes en centre de formation, mais eux, ils pensent que c'est sur le terrain. Sauf que derrière, maintenant, en Ligue 1 ou Ligue 2, bah, ils doivent faire leurs preuves.
Ouais.
Donc la pression est complètement différente et je m'adapte.
Et donc, ton approche doit être automatiquement différente.
Mentalement, oui. Mentalement, oui, parce que je vais m'adapter au joueur. Mais encore une fois, je m'adapte à la personne. Avant tout, c'est un être humain qui est sur le terrain. Alors oui, c'est un joueur de football. mais c'est un être humain. Mmh. Et ça, faut pas l'oublier. Et ça, ça fait vraiment la différence. Et un joueur de National 2, surtout chez les jeunes en National 2, eux, ils veulent grimper. Eux, ils veulent leur premier contrat pro. Donc, ils ont une pression d'enfer. Avec un salaire beaucoup moindre. Ouais. Et ils veulent se faire repérer. Mmh. Et mentalement, c'est très difficile. Moi, je dis chapeau aux semi-pro. Hein. Parce qu'ils ont les mêmes, dans des conditions, ils ont les mêmes matchs, hein, tous les week-ends, ils s'entraînent tous les jours. Alors, je ne parle pas ceux qui ont un métier à côté, hein. Je parle vraiment des semi-professionnels qui ont entraînement tous les matins, parce qu'en National 2, par exemple,
c'est un rythme.
Alors, certaines National 2, non, mais la plupart, oui. Et enfin ceux qui en tout cas et puis là ça va se corser avec les nouvelles normes qu'ils ont mis avec les descentes etc, mais un joueur semi-pro c'est chapeau parce qu'ils veulent se faire repérer, eux c'est ce qu'ils attendent, et dans le championnat français c'est compliqué et il y a tellement de concurrence et pas les mêmes moyens. Et malheureusement, ils ont dans des conditions, quand ils font des 8 heures de bus pour aller dans le sud, alors qu'ils sont dans le nord pour aller jouer, c'est différent.
C'est pas pareil,
on n'a pas les mêmes conditions. Donc si tu t'imposes pas des routines à toi, comme un professionnel, tu veux devenir professionnel, agis comme un professionnel en fait. Mm. C'est à toi de te discipliner, je dis malheureusement dans le sens où...
Pour l'instant, il doit faire sa place. Quoi.
Malheureusement, en semi-pro, en tout cas, ils sont obligés de passer par là. Parce qu'en professionnel, tu es automatiquement plus discipliné parce qu'on t'apporte les moyens. Mm-hmm. Alors, pas tous, bien sûr.
Mais justement, en professionnel, on se dit qu'ils ont tout. Ils ont tout à disposition.
Oui.
Pourquoi ils viendraient... faire appel à un performance manager, par exemple.
Pourquoi ?
Ouais.
Parce que
ça peut leur apporter en plus, sachant qu'ils ont déjà le nutritionniste, le mec qui...
Parce que le nutritionniste du club, il mange pas avec lui le soir à table.
Ouais. Toi, tu fais un suivi hors...
C'est-à-dire que si le joueur a envie de m'écrire à 21h, alors je réponds ou je réponds pas, ok. Mais s'il a envie de m'écrire à 21h, il m'écrit. En fait, un joueur professionnel qui a tout à disposition, le kiné, les soins, le bain froid, la cryo, toutes les méthodes que l'on puisse découvrir, il a envie de se discipliner chez lui. Parce que encore, on a des joueurs aujourd'hui, Dieu merci, un CR7, un Cristiano Ronaldo fait ça chez lui, un Karim Benzema, il fait ça chez lui. Mais il montre l'exemple. Et aujourd'hui, les performances... Voilà.
Le montre
aujourd'hui. Mais s'il n'avait pas ça aujourd'hui,
ouais.
Il en serait où peut-être ?
Il serait moins performant.
Peut-être moins performant, peut-être blessé, peut-être... tu vois ? On ne sait pas.
Est-ce que tu as déjà été amenée à travailler avec des footballeuses, des joueuses professionnelles ?
Non, à mon grand regret pour l'instant. Parce que non, c'est plus de ma faute, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé de me consacrer. Déjà,
c'est beaucoup de boulot.
Sachant
que c'est en plein essor, le football féminin, peut-être que tu vas être amenée à être appelée par des clubs.
Je ne dirai jamais non.
Voilà.
Jamais.
Tu n'es pas spécifiquement football masculin.
Pas du tout.
Okay.
C'est juste que j'ai voulu me consacrer dans... tout simplement, déjà, les contacts que j'avais, c'était purement masculin. En soi, en aucun cas, je dirais non à des joueuses de foot. Jamais.
Alors, pour terminer, je voulais savoir, est-ce que t'as rencontré des difficultés, quelles qu'elles soient, au début de ta carrière ? Est-ce que c'était lié au fait que tu sois une femme, justement, comme on en parlait tout à l'heure ? Et si tu devrais conseiller ou motiver une jeune femme qui t'écoute, qui aurait envie d'aller vers le même genre de carrière, qu'est-ce que tu lui conseillerais ? Quelle erreur ne devrait pas faire ?
Alors, je pense déjà que moi, mes premières difficultés, ce n'était pas au départ d'être une femme, c'était mon poste. En soi, qui n'est pas du tout connu. C'est mon profil qui n'est pas connu. Mais pourquoi elle n'est pas que nutritionniste ? Mais pourquoi elle doit faire plusieurs choses en même temps ? C'est bizarre. Enfin, je connais pas. Et l'inconnu fait peur.
Ouais.
Donc forcément, on va pas aller vers quelqu'un ou je connais pas. Ou alors ça va être, comme je l'ai dit tout à l'heure, le bouche à oreille, les connaissances, et c'est comme ça que ça marche. Et après, oui, le fait d'être une femme dans le foot, il y en a pas énormément, de plus en plus, heureusement. Mais moi, j'ai eu, par chance, la crédibilité de mon papa. Parce que, bon, elle est dans le milieu du foot, ouais. Elle connaît déjà, donc ça va. Bon, ah, son père, si, si, c'est là, ça passe. Et après, il tâte le terrain. Il tâte, il regarde, etc. Mais qu'on soit pas dans le milieu du foot, que l'on a envie de développer une carrière dans le sport, dans un milieu masculin, quand tu connais ton travail, que tu sais ce que tu vaux et que tu sais ce que tu fais, tu y arriveras. Donc, ne jamais lâcher parce que t'es dans un milieu masculin. Pas du tout.
D'accord.
C'est tant que tu sais, tu connais. Tout à l'heure, tu m'as posé une question, tu m'as dit oui, mais t'as peut-être certaines pressions avec d'autres joueurs en Ligue 1, en Ligue 2 plus qu'en National. J'ai dit bah non. En fait, ma démarche, elle est toujours la même. Viser la performance du joueur, le bien-être du joueur. Ou peut-être de la joueuse. Mais en soi, mon objectif, il est le même. Si je connais mon travail, si je sais ce que je fais, je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas.
Super.
Donc, ne jamais, si tu sais ce que tu fais, que tu as confiance en ce que tu fais, je ne parle pas de confiance en soi, je parle en confiance en ce que tu fais et ce que tu peux apporter. Mmh. Et ça, c'est différent. Voilà.
Super. Bah, merci pour ton,
de rien.
Pour ton temps. Merci d'avoir accepté l'invitation.
Bah avec plaisir.
Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Business Club. Merci à tous.